Bonjour et bienvenue dans PronoLive, l'émission consacrée à 100% aux pronostics. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, toujours avec Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu ?
Salut à tous, salut à Nadim, salut à Seb, et tout va bien, merci.
T'as failli dire salut à Raph, non ?
J'ai failli, ouais, c'est pour ça.
Oui, donc la bonne nouvelle pour Chris et moi sur cette émission, c'est qu'il n'y aura pas de carton jaune ni de carton rouge, parce que Raph, notre animateur préféré, n'est pas là. Mais quand il va revenir, ça pourrait faire mal, donc on va quand même s'en méfier. Donc on vous salue tous, Seb à la technique et donc Chris à mes côtés. Et au programme du jour, encore un super pactole, enfin pactole mais que j'appelle super pactole puisqu'il y a 1 million à la clé de cette grille Ligue des Champions, une grille peut-être plus abordable que le super pactole de ce week-end. On va faire notre bilan. Donc justement, le programme du jour, ça va être le débrief sur nos pronostics ce dimanche alors qu'il y a bien un super pactole de 2 millions d'euros. Notre débrief sur les pronos bookmakers. Et puis évidemment, on va vous donner les pronos du Pactole Ligue des Champions, les pronos bookmakers, et vous pourrez nous poser vos questions via le chat. Alors, petit rappel, si vous aimez le concept de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à nous laisser des petits pouces en l'air. Donc, j'invite tous ceux qui sont sur le live en ce moment et tous ceux qui regarderont l'émission en replay à nous mettre un petit like. Ça va nous encourager et ça va nous aider à gagner en visibilité. Allez, on va commencer par ce débrief du Loto Foot de ce week-end. Donc un super pactole qui n'était pas si évident que cela. Bravo aux 4 parieurs qui ont décroché le 15 sur 15. Alors, est-ce qu'il y a vraiment 4 parieurs ? On ne le sait pas parce qu'il y a eu un match gagnant, c'est le match 13, puisque la rencontre entre Grenade et Bilbao a été interrompue en première mi-temps. Donc au Loto Foot, le match est considéré comme gagnant alors qu'il s'est poursuivi hier soir pour le pari en sport et pour les bookmakers. Mais pour le Loto Foot, il est bien gagnant. Donc peut-être que des parieurs avaient doublé ou triplé ce match et ont touché deux fois ou trois fois le premier rang. Bravo à eux en tout cas, c'était pas une grille évidente. Et Chris, tu vas nous dire comment tu t'en es sorti.
Oui, mais je termine à 9 sur 15. Un peu de frustration pour le 12, hein, parce que, bon, clair, sincèrement, je ne serais pas allé au 15, hein, il y a aucun souci là-dessus. Mais à 19h30, le dimanche soir, j'étais encore dans la course pour rentrer au moins dans les rangs, hein, parce que il restait 4 matchs et j'étais à 8 à ce moment-là. Et malheureusement, Cadix menait 1-0 et s'est fait rejoindre par Osasuna. Donc, c'est une petite déception sur ce match. Sur l'AS Rom Fiorentina, les Romains menaient 1-0, deux cartons rouges du côté des Romains et ils se sont fait égaliser un but partout, donc déception aussi. Et le Barcelone-Gérone, hein, qui, bon, j'avais quand même doublé, hein, je m'étais quand même couvert avec un match nul pour ce match-là. Je n'ai pas été jusqu'à la victoire de Gérone, mais franchement, j'ai passé un très bon dimanche soir, même si le Barça a perdu, parce que je me suis régalé devant ce match. C'est un match formidable, un match qui partait un petit peu dans tous les sens. Gérone, j'ai trouvé une très très belle équipe. Donc je pense qu'il faudra la surveiller et s'en méfier tout au long de la saison. On pensait que ce serait peut-être un petit coup de bluff sur le début de saison et après Gérone allait rentrer dans les rangs. Mais finalement, voilà, cette équipe de Gérone est plutôt intéressante et très très bonne dans le jeu. Même son entraîneur a 3-2 a fait rentrer un attaquant. Donc je pensais qu'il allait serrer les rangs et jouer la victoire, enfin jouer et garder cette victoire. Au final, il fait rentrer un attaquant et l'attaquant marque le 4e but en fin de match. Donc voilà, je me suis vraiment régalé. Donc malheureusement, Lewandowski manque un immanquable dans les arrêts de jeu, hein, la balle du 3-3 là sur un centre et une tête immanquable, hein, il est au 6 mètres et quand on s'appelle Lewandowski, on doit la mettre au fond. Donc déception quand même sur ce match-là. Satisfaction du nul de Clermont face à Lille, mais malheureusement j'avais misé une victoire de Lille, je pensais pas quand même que les Clermontois allaient accrocher les Lillois. Et si j'ai quelques satisfactions à donner, ça serait le nul entre Stuttgart et Leverkusen, où cette équipe de Stuttgart est plutôt intéressante sur ce début de saison et elle fait donc un bon match nul face au leader. La satisfaction d'avoir basé cette équipe lyonnaise, hein, qui enfin renoue avec la victoire, avec notamment un triplé de la Lacazette, on y reviendra tout à l'heure dans mes pronos book, et la base de Marseille qui sort sur une très très belle dynamique actuellement et on a encore vu un Aubameyang en feu, donc 9 sur 15, pas de déception quand même, même si un petit peu de regret de pas avoir été jusqu'au 12.
Bien. Ben, c'est vrai que sur Gérone, je te rejoins, hein, c'est une super équipe. J'avais peu l'occasion de les voir jouer l'intégralité de match, mais je les ai vus face à Barcelone et effectivement, c'est du très très beau jeu, du football panache à 3-2, comme tu l'as dit, aller chercher le 4e but, c'est quand même exceptionnel. Donc bravo à Gérone. On nous avait dit sur le chat, est-ce qu'on croyait en la surprise comme Leicester en 2016 pour cette équipe de Gérone. Bah là, je commence à changer un peu d'avis puisqu'ils viennent de battre un gros de ce championnat et j'avais dit qu'ils n'avaient pas réussi à battre le Real. Et là, ils ont justement peut-être réussi à surmonter le plafond de verre qui pesait au-dessus de leur tête. Donc, bravo à cette équipe de Gérone. Ça fait du bien dans ce football, surtout après les images d'arbitrage en Turquie d'hier, mais bon, passons, c'est le football également, malheureusement. Donc, de mon côté, en satisfaction, il n'y en a qu'une seule, malheureusement, c'est d'avoir basé les Toffees d'Everton qui ont battu les Blues de Chelsea 2-0. Donc, en base, alors que c'était un signe rouge de la répartition. Et puis, en satisfaction, mais pas en prono, évidemment, c'est cette équipe lyonnaise qui s'est enfin réveillée et qui mérite enfin sa victoire, contrairement au hold-up qui avait été effectué du côté de Rennes. Mais j'avais pas été aussi confiant, même si j'avais annoncé depuis quelques mois que la seule équipe prenable par les Lyonnais serait Toulouse, mais je les ai pas cochés pour autant. Et puis, pas mal de déceptions, notamment la Roma, comme toi, Chris, et puis Mourinho, toujours très décevant. Je pense qu'on se fait souvent un peu influencé par ces deux tops attaquants. D'ailleurs, Dybala s'est blessé en début de match, ça a sûrement faussé la donne. Mais le milieu reste pauvre, la défense également sans Smalling. Donc, une équipe romaine décevante au final. Et puis, Leverkusen, que j'ai joué vainqueur en long terme devant le Bayern, n'a pas réussi le gros coup du week-end, puisque le Bayern a été étrié 5-1 sur la pelouse de Francfort et le Lever n'a pu faire qu'un match nul. Mais c'est toujours mieux que rien. Mais plus de déception que toi, Chris, sur cette grille, puisque je passe vraiment à côté de la majorité des matchs. Allez, on passe au book où tu as sauvé les meubles avec un 1-3 et le général qui a fait son retour et de belle manière.
Ouais, c'est ça exactement. Donc, j'attendais ce dernier match à 17h le dimanche et ouais, très content d'avoir sauvé les meubles avec Lacazette qui inscrit quand même encore un triplé. Donc voilà, donc c'est un garçon quand même qui est toujours présent, même s'il a eu des débuts, un début de saison difficile. Qui se réveille au bon moment, donc une cote de 2,45 qui passe, c'est plutôt sympa. Ensuite, du côté du basket, San Antonio Chicago, ben, c'était un petit peu la dernière chance peut-être pour les Spurs d'accrocher une victoire. Wembanyama a fait une très très grosse prestation, hein, 20 points, 20 rebonds, donc ces 20 rebonds, c'est un record là pour un jeune joueur en NBA, donc belle prestation du Français, mais finalement les Spurs sont inclinés 121-112. Et par contre, très très grosse frustration sur le Bristol-Lyon, hein, une cote à 4,90. Donc j'étais à 30 secondes de pouvoir la passer. Hein, donc Lyon menait 34-33 à la 84e minute de jeu. Donc 4 minutes d'arrêt de jeu et les Anglais, suite à un regroupement, passent un drop dans les dernières secondes, juste avant le coup de sifflet de l'arbitre. Donc voilà, franchement, c'est une grosse déception sur ce match parce que la cote à 4,90 était plutôt sympa.
Ouais, ben vraiment, j'ai suivi le match à la radio et grosse remontée des Lyonnais, hein, qui étaient largement menés. Et puis j'ai cru que ça allait être bon, mais vraiment déception. Mais bravo en tout cas de l'avoir tenté. Et le triplé d'Haaland.
Ah oui, pardon. Excuse-moi, pardon. J'avais oublié Haaland. Ouais, donc pas de triplé pour Haaland. Malheureusement, en plus, il s'est blessé sur ce match-là. Et comme on l'avait dit un peu sur le live, Raph nous avait un petit peu demandé si c'était un match cadeau entre Luton et Manchester City. Et on avait quand même dit qu'il fallait faire attention à cette équipe de Luton. Et Luton menait quand même 1-0 à l'heure de jeu. Et les Citizens sont imposés finalement 2-1. Donc, pas de triplé pour Haaland. Et Haaland qui sera apparemment pas sur les terrains de Ligue des Champions cette semaine.
En tout cas, j'ai pensé à toi dimanche parce que entre les deux victoires de Lyon et puis le but de Lacazette, si tu avais proposé dans le délire du fun le triplé de Lacazette, là, tu faisais le coup du siècle.
C'est vrai.
En tout cas, bravo d'avoir senti ce réveil et de ne pas être passé loin sur les autres pronos. De mon côté, je sauve également les meubles avec la victoire de la Juve qui fut très, très compliquée, hein, sans un grand Chechnet dans les buts. Je pense que la Juve ne se serait pas imposée puisqu'il y avait une très belle équipe du Napoli. Alors, ça passe. Hein, parfois, les faits de jeu sont favorables. Cote à 2,30. Après, j'avais quand même décidé de revenir à mes premiers amours avec les buteurs et j'aurais mieux dû ne pas le faire puisque autant Montpellier ne s'est pas imposé et Adams a loupé une énorme occasion en fin de match, donc le prono buteur ne passe pas, autant Aston Villa s'est imposé mais sans but d'Oli Watkins et Aston Villa était coté à 3,10. Mais voilà, ça m'apprendra et c'est assez compliqué quand même en ce moment les buteurs. Et puis pour le fun, on n'en parle pas trop, j'ai pas copié. Si, c'est bon, Watkins n'a donc pas marqué de doublé. S'il ne marque pas de simple, il ne marque pas, forcément pas de doublé. Allez, on passe au plat principal de l'émission, qui est le pactole d'un million, qui aura lieu ce soir, qui est à midi. Alors, ce soir, 18h40. Donc, attention à l'horaire, puisque la programmation de la grille a voulu inclure le match entre le FC Séville, entre Lens et le FC Séville. Donc, validation avant 18h40. Il vous reste que quelques heures pour valider votre loto-foot. Et justement, ça tombe bien, puisqu'on va commencer par ce match entre Lens et Séville. Et tous les deux, on a décidé de baser les 100 et or.
Ouais, pour moi, victoire des 100 et or. Alors, j'ai quand même hésité et attendu un petit peu pour baser cette équipe lensoise, parce que Séville, c'est quand même une formation qui a souvent réussi en Europa League ces dernières années. Maintenant, voilà, je pense que quand même la dynamique est du côté des Lensois. En plus, Lens peut se contenter d'un match nul pour accrocher pour accrocher l'Europa League. Le FC Séville doit absolument gagner. Donc, je pense déjà que les Sévillans vont se découvrir pour aller chercher cette victoire. Lens, c'est vrai, reste sur deux défaites en Ligue des Champions, mais le FC Séville vient de chuter quand même à trois reprises dans cette compétition. Les Andalous n'ont toujours pas gagné en plus en Ligue des Champions sur ce début de saison. Du côté de Séville, c'est une formation qui vient de chuter ce week-end à Majorque, hein, chez un mal classé de la Liga, une défaite 1-0. Donc c'est une formation quand même qui est encore une fois en grande difficulté sur ce début de saison. C'est une équipe qui sera privée de beaucoup de joueurs. Hein, donc Fernando Campos sont suspendus. Badé, Acuña, Kouassi, Jordan, Luque Bakio, Navas, Souzo, Mariano, Lamela blessés. Donc c'est beaucoup de joueurs en moins pour cette formation sévillane. Et je me dis que les Lensois sont plutôt sur une dynamique intéressante en championnat avec cette victoire 3-2 face à Lyon. Ce bon nul quand même ramené de Montpellier sur le score de 0-0. L'ambiance, à mon avis, risque d'être assez exceptionnelle comme face à Arsenal. Donc, je me dis que les Lensois peuvent encore une fois créer un exploit et aller chercher cette place en Europa League.
Ben là, je te rejoins complètement, Chris, puisque les Lensois, je trouve qu'à Bollard, ils se surpassent littéralement. C'est déjà une équipe qui donne tout sur le terrain, mais encore plus à Bollard avec le 12e homme. C'est là qu'ils ont réussi l'exploit de battre les Gunners et de revenir malgré tout face à une équipe du PSV qui avait ouvert le score. Donc à Bollard, et les Sébillans de leur côté, ils sont complètement passés à côté de cette campagne européenne, et puis à l'image un peu des matchs en championnat où ils ont beaucoup de mal. De plus, on déplore de nombreuses absences dans cette équipe du FC Séville, notamment Ocampos, Fernando, Acuña, Luque Bakio, Jesus Navas, Souso et Lamela, rien que cela. Donc par rapport à tous ces faits défavorables, je vais baser les 100 et or, et j'espère une victoire avec panache ce soir. Allez, on passe au deuxième match de la grille et l'on voit tous les deux, les Néerlandais du PSV, poser des problèmes aux Gunners. Mais Chris, tu vas jusqu'à carrément les baser, tu vas nous expliquer pourquoi.
Oui, moi je base l'Hollandais tout simplement parce que Arsenal n'a rien à jouer sur ce match-là. Donc Arsenal, quoi qu'il arrive, terminera en tête de son groupe. Arsenal vient de s'incliner en championnat à Aston Villa, donc je pense que les Gunners et Mikel Arteta va sûrement reposer quelques cadres avant le prochain match de championnat, parce que Arsenal a même perdu sa place de leader en Premier League, donc voilà, donc ce match à Eindhoven n'est pas une priorité pour les Gunners, et je me dis que le PSV quand même à domicile, c'est quand même une grosse machine, hein, c'est une formation qui est toujours invaincue au Philips Stadion depuis le début de la saison, donc je pense qu'ils vont rien lâcher. On annonce l'équipe type pour du côté du PSV Eindhoven, donc je me dis que les Hollandais avec un Luc de Jong toujours en forme sur cette année, voilà, les Hollandais peuvent s'imposer face aux Gunners.
Bah, je te rejoins là-dessus, hein, c'est un peu un match pour l'honneur et Peter Bosch aligne l'équipe type ce soir, tandis que du côté des Gunners, des joueurs comme Saka et Gabriel Jesus risquent d'être mis au repos, puisque les Anglais, on le rappelle, ils enchaînent les matchs tous les trois jours, il y a le Boxing Day en ligne de mire, et ils ont aussi joué en milieu de semaine dernière, donc on verra également pour City, c'est un peu la même analyse que je vais avoir. Donc, avantage au PSV qui va donner tout pour son public. Et puis, un nul ne déplairait pas aux deux formations. Ça évite la défaite et ça permet de se rassurer, notamment pour les Gunners, même en ayant fait tourner. Allez, maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses avec un énorme choc, mais entre le dernier Manchester United et le premier du groupe, le Bayern Munich. Et tous les deux, on voit un kick tout double sur cette rencontre.
Ouais, c'est ça qui tout double, hein, parce que Manchester United n'a pas le choix. Hein, si les Mancuniens veulent sauver leur saison en Coupe d'Europe, il faut absolument s'imposer devant le Bayern. Alors on le sait, c'est une équipe de Manchester qui est en difficulté depuis le début de la saison, qui à domicile s'est notamment inclinée quand même face à Galatasaray en Ligue des Champions, qui en championnat piétine, hein, qui vient encore de prendre un 3-0 à domicile face à Bournemouth ce week-end. Mais sur un match, Manchester United peut sauver cette première partie de saison. Donc je pense que les Mancuniens vont tout lâcher sur cette rencontre. Je me dis que le Bayern aussi, qui est déjà qualifié, déjà assuré de terminer à la première place, risque peut-être de lâcher, enfin je vais pas dire lâcher cette rencontre, mais d'aborder cette rencontre avec beaucoup moins de pression. Donc je me dis que les Bavarois vont peut-être faire tourner quelques joueurs. Alors c'est vrai qu'on annonce quand même un 4 joueurs offensifs, Sané, Müller, Kane et Coman, qui est quand même assez impressionnant. Mais voilà, peut-être qu'à l'heure de jeu ou à la mi-temps, peut-être que quelques cadres vont sortir. Donc voilà, pour moi, quitte ou double, si le Bayern joue vraiment le jeu, les Bavarois devraient pouvoir s'imposer assez facilement. Mais si le Bayern lâche un petit peu, Manchester peut peut-être créer l'exploit et se qualifier pour l'Europa League.
Ouais, en tout cas, Tourelle, il ne plaisante pas, puisque là, il met carrément son équipe type ce soir, donc les intentions sont quand même bonnes, et tant mieux de ne pas fausser le jeu, surtout que les trois équipes sont au coude à coude, hein, dans ce groupe, tout le monde peut se qualifier. Mais bon, Manchester United a quand même peu de chances de le faire pour la Ligue des Champions, puisqu'il faut qu'il y ait un nul sur l'autre terrain entre le FC Copenhague et Galatasaray. Et il faut que Manchester s'impose en même temps face au Bayern Munich. Mais en tout cas, une victoire leur garantirait d'aller en Europa League, ce qui serait un moindre mal. C'est vraiment un match à qui tout joue pour les raisons que tu as expliquées. Si le Bayern joue à son niveau, le Bayern devrait s'imposer. Mais voilà, ils seront peut-être pas surmotivés dans ce match. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est tout l'intérêt justement des pronostics et du loto-foot. On passe au match 4 avec cette fois un enjeu de qualification pour l'Europa League avec les Autrichiens du Red Bull Salzbourg qui accueillent les Portugais du Benfica. Et Chris, tu vois Strasbourg se qualifier, pas forcément en s'imposant.
Oui, parce que bon, déjà un match nul, bien sûr, suffit à cette équipe autrichienne. On va quand même rappeler les données. Hein. Donc le Benfica, il faudrait vraiment un véritable exploit hein, donc en Autriche pour pouvoir se qualifier. Hein, parce que le Benfica compte 3 points de retard sur Salzbourg, donc il faut absolument une victoire. Et les Portugais se sont inclinés 2-0 à Lisbonne au match aller. Donc il faudrait un exploit du côté du Benfica. Et c'est vrai que le Benfica n'est pas forcément au mieux sur ce début de saison. On va rappeler que les Portugais restent sur 3 nuls actuellement. Ils ont été accrochés à domicile en championnat ce week-end par la modeste formation de Farens. Donc voilà, c'est une équipe du Benfica en Ligue des Champions qui compte quand même 4 défaites et 1 nul. Et il y a eu 3 matchs quand même sans inscrire le moindre but. Donc je pense que ça peut être compliqué du côté des Portugais. Pour Salzbourg, c'est cette Ligue des Champions, c'est plutôt intéressant. Il y a eu un bon nul quand même à Saint-Sébastien devant la Real Sociedad, pardon, sur le score de 0-0. C'est une équipe qui est accrocheuse, qui est à domicile plutôt performante. Donc je me dis qu'au pire, s'ils ne peuvent pas s'imposer, ils se contenteront de garder ce match nul.
Bah cette fois, c'est moi qui base donc l'équipe qui joue à domicile. Donc, je vois Salzbourg, pour les mêmes raisons que toi, normalement surclasser cette équipe de Benfica. Au match aller, il s'était imposé 2-0, même si les Portugais avaient été réduits assez tôt dans le match à 10 contre 11. Mais quand même, Salzbourg avait également raté un pénalty avant cela. Donc, dans le jeu, ils avaient produit quelque chose. Et je reste d'avis que cette équipe autrichienne est encore plus forte à domicile qu'en déplacement, c'est pour ça que je les base. Mais ce n'est pas un match qui m'attire forcément et que je vais regarder. Je regarderai juste un petit résumé pour savoir ce qui s'est passé. Allez, maintenant, on passe au match 5 entre les deux premiers du groupe qui s'affrontent justement avec leur objectif de décrocher cette première place qui évite d'avoir un gros lors du tirage au sort normalement, un gros comme le Bayern Munich. Et Chris, tu vois les coéquipiers de Takekubo capables de créer l'exploit.
Ouais, je pense qu'ils en sont capables. On va rappeler quand même que la Real Sociedad est première de ce groupe. Donc, un match nul suffit aux Basques pour rester en tête. Je pense que c'est une belle opportunité d'être devant parce que l'Inter donc va se découvrir pour aller chercher la victoire. Et je pense que la Real avec des garçons comme Kubo ou Oyarzabal peuvent briller en contre-attaque. Donc, c'est plutôt intéressant. On va dire quand même que ces Basques sont invaincus depuis 7 matchs actuellement. Ils viennent de décrocher une belle victoire à Villarreal sur score de 3-0 et en Ligue des Champions. Ils ont déjà gagné à Salzbourg et à Lisbonne, donc je me dis qu'ils peuvent aller peut-être chercher des points à l'Inter. L'Inter, on l'a dit depuis le début de la saison, c'est quand même une grosse machine, une grosse armada. C'est 13 matchs d'affilée actuellement sans la moindre défaite. Il y a eu 2 dernières victoires en Serie A, 3-0 à Naples et 4-0 devant l'Udinese. Mais en Ligue des Champions, l'Inter reste quand même sur un nul plutôt inquiétant à Lisbonne, hein, sur score de 3 buts partout. Alors c'est vrai que l'Inter a réussi quand même à accrocher ce nul alors que l'Inter était mené quand même 3-0. Mais voilà, je me dis que l'Inter a quand même encaissé 3 buts face aux Portugais. Donc je me dis que la Real Sociedad peut aller chercher au moins un but là-bas sur le terrain de l'Inter. Donc prudence, c'est pour ça que je triple.
Pourquoi pas? De mon côté, je fais confiance aux interistes, même s'ils avaient largement fait tourner donc dans le déplacement à Benfica, et que ce soir, Lautaro Martinez est annoncé sur le banc par l'équipe, en tout cas, mais ça reste, je pense, du lourd offensivement, comme on dit. Surtout qu'entre le match aller et ce match-là, je trouve que l'Inter s'est bonifié, le jeu s'est vraiment fluidifié. Ils ont non seulement étrié le Napoli 3 buts à 0 donc à Naples, et ils ont confirmé face à une équipe très très compliquée à jouer, qui est l'Udinese. Ils se sont promenés ce week-end avec une victoire éclatante, 4 buts à 0. Donc tout le monde marque en attaque, tout le monde est en confiance. Du côté de la Real, j'apprécie également le jeu qui est pratiqué, mais je pense que le déplacement va être compliqué et je fais confiance aux Italiens. On passe au match 6, où cette fois on est d'accord sur le club italien, puisqu'on voit tous les deux une victoire du Napoli contre Braga. Chris?
Oui, voilà, pour moi, victoire du Napoli. Naples ne doit pas perdre pour assurer sa place en 8e de finale de Ligue des Champions. Ben, au mieux, il faut aller s'imposer. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de calcul du côté napolitain. Alors, c'est vrai que Naples reste actuellement sur 3 défaites, mais c'était devant le Real Madrid, l'Inter et la Juve. Quand même 3 formations qui sont un cran largement au-dessus du Sporting Braga. C'est plutôt intéressant du côté de Naples. On a changé dernièrement d'entraîneur. Il y a eu une victoire à Bergame sur le score de 2 buts à 1. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Donc, je me dis que les Napolitains vont jouer le jeu à fond là pour aller chercher cette victoire et se rassurer. Du côté de Braga, c'est une équipe qui est en confiance dans son championnat, mais en Ligue des Champions, c'est une formation qui reste quand même sur 2 défaites devant le Real Madrid et sur un triste nul à domicile devant l'Union de Berlin, un but partout. Donc, pour moi, avantage à Naples qui avait déjà gagné à l'aller à Braga sur le score de 2 buts à 1.
Très bien, de mon côté, c'est un peu la même analyse. Le Napoli, c'est vrai qu'ils sont inclinés donc à Turin, je l'ai dit dans mon débrief le bookmaker, mais je trouvais que dans le jeu, c'était bien mieux. Ils méritaient largement mieux dans ce déplacement. Et puis côté Braga, je pense qu'ils vont devoir tenter le tout pour le tout. Ils ont besoin d'une victoire, ils vont se découvrir. Et je pense qu'ils vont subir l'efficacité cette fois-ci des attaquants napolitains. Alors juste par rapport à Osimhen, j'ai l'info de Baggio toute fraîche. Donc Osimhen, c'est pas sûr qu'il soit titularisé, mais il devrait être là puisqu'il revient du Ballon d'Or qu'il vient d'obtenir en Afrique. Donc il revient aujourd'hui, son avion atterrit en ce moment, je pense, du côté de Naples. En dehors de ça, c'est le seul point à noter, mais les autres joueurs seront bien présents. On le verra dans mes pronos book, en tout cas. Allez, on passe maintenant au dernier match qui aura lieu ce soir, le match 7 entre l'Union Berlin et le Real Madrid. Et une grosse prise de risque pour toi, Chris.
Ouais, voilà, je prends clairement un risque sur ce match, mais voilà, je me dis que le Real, bon, on le sait, c'est 5 victoires en 5 journées. Le Real est assuré de terminer à la première place. On le sait que le Real vit quand même une période un peu difficile au niveau de ses joueurs. Il y a pas mal de blessés, hein, donc Militao, Courtois, Camavinga, Carvajal et Tchouaméni. Vinicius Junior est annoncé aussi blessé pour cette semaine. On parle aussi d'un gros turnover pour cette rencontre avec des garçons qui risquent d'être au repos ou sur le banc, comme Valverde, Alaba, Rudiger ou encore Jude Bellingham. Donc je me dis que si le Real fait tourner autant son 11 de départ sur ce match-là, je me dis que les Allemands peuvent peut-être aller chercher une victoire, sachant que les Allemands doivent gagner pour aller chercher une place en Europa League, pour rêver de l'Europa League. Les Allemands, ça va un petit peu mieux depuis quelques temps, hein. Donc, en Ligue des Champions, ils restent quand même sur un très bon nul à Naples, sur un nul aussi à Braga. Ils viennent de quitter leur place de lanterne rouge en Bundesliga grâce à une belle victoire à domicile devant le Mönchengladbach 3-0. Donc, je me dis que s'il peut y avoir une belle surprise sur l'autofoot, c'est peut-être la victoire de l'Union de Berlin face au Real.
C'est vrai que c'est pas un match qui est facile à pronostiquer. Peut-être le double 1-2 quand je finaliserai, mais là, je vois qu'en première fois, en tout cas, le Real Madrid sur sa valeur. C'est vrai que ça va peut-être faire tourner, mais paradoxalement, ça peut être positif puisque les joueurs qui vont être sur le terrain, notamment Ceballos ou Brahim Diaz, voudront gagner du temps de jeu et marquer des points dans une équipe où il y a une forte concurrence. C'est pas tout le temps qu'ils ont l'occasion d'être titulaires en Ligue des Champions et ils ont beaucoup de choses à prouver. Donc, des remplaçants qui vont être motivés du côté du Real. Et puis l'Union Berlin, malheureusement, sur ce qu'on a vu depuis ce début de saison, même si ça va mieux depuis deux rencontres, je pense que ça reste insuffisant. Alors le match aller, il était très compliqué. Je crois que tu l'as encore en tête, Chris, avec le but à la 94e minute du Real Madrid. Mais là, je pense quand même que le Real, après son nul au Bétis, va s'imposer. Mais peut-être ce soir, le double 1-2 qui semble quand même judicieux. Alors, avant de passer aux rencontres du mercredi, on vous rappelle qu'on vous donne un pronostic en 3 triples, 3 doubles. C'est un jeu qui coûte 216 € si vous jouez tous les doubles et les triples sur une seule et même grille. Mais vous pouvez également jouer en réduction N-1 pour 24 € grâce à nos systèmes. Alors, les systèmes, ce sont des systèmes réduits présents sur le site Pronosoft, rubrique système gratuit. Vous pouvez également installer le logiciel PronoFoot Expert Plus sur Mac ou PC. Il y a une version d'évaluation. Et également installer l'application PronoFoot 1 et 2 sur vos smartphones. Allez, on va continuer de sillonner l'Europe avec des matchs du mercredi. Et on va en Serbie, où l'étoile rouge de Belgrade a du mal à briller depuis sa victoire de 1991 dans la Coupe des clubs champions. Et le Manchester City de Guardiola qui va tenter le perfect et 18 points sur 18. Chris ?
Ouais, pour moi, avantage Manchester City. Alors, c'est vrai que Manchester City n'a plus rien à jouer sur ce match-là. Mais l'étoile rouge aussi. Donc, l'étoile rouge n'a plus rien à espérer en Coupe d'Europe cette saison suite à cette défaite à Berne face aux Young Boys. Donc voilà, je me dis que les Citizens devraient pouvoir s'imposer. Pep Guardiola va faire tourner, mais il va garder une équipe compétitive parce que je pense que Manchester City, et lui aussi le sait, Manchester City a besoin de se rassurer. Hein, c'est une formation qui en ce moment en championnat est un peu en difficulté. Enfin, même si elle a retrouvé sa place de leader, a perdu quelques points quand même, quelques points importants. Il y a une victoire laborieuse à Luton ce week-end sur le score de 2-1. Erling Haaland est blessé. Mais ça va permettre à certains joueurs, à certains remplaçants comme Jack Grealish par exemple de se montrer. Hein. Donc il a profité aussi de la blessure de Doku ce week-end face à Luton pour être titulaire. Il en a profité, il a marqué et on le retrouvera sûrement tout à l'heure dans mes pronos MOOC. Mais je pense que Manchester City, même avec quelques remplaçants, est largement au-dessus de cette équipe de l'Étoile Rouge.
Bon, alors largement au-dessus, je sais pas, parce que moi je mets un double N2, et puis Grealish, certes il a marqué, mais on a quand même vu la différence avec Doku, qui est vraiment explosif sur le côté gauche, mais bon, ça reste un top joueur évidemment, hein. Surtout il faut s'adapter à l'adversaire, je pense que Luton est peut-être plus fort que cette équipe serbe, néanmoins ça reste un déplacement qui est toujours redouté avec une ambiance assez folle là-bas. L'étoile rouge avait réussi à accrocher à domicile les Young Boys Bern 2-2 et ne s'était incliné que d'un but face au Red Bull Leipzig. Comme là, il y a beaucoup moins d'enjeux sur le match, je me dis que le nul est possible et surtout la cadence infernale qui existe en ce moment en Angleterre va favoriser les changements et donc le fait que les joueurs ne soient pas à 100% peut-être sur cette rencontre. Allez, on passe au match 9 avec encore un match sans enjeu entre les Écossais du Celtic et les Néerlandais, je vais y arriver, du Feyenoord Rotterdam. Et Chris, tu t'attends à voir du Fighting Spirit au Celtic Park.
Ouais, c'est ça. Je pense que le Celtic Park sera plein encore une fois pour que son équipe puisse décrocher sa première victoire en Ligue des Champions cette saison. C'est une équipe du Celtic, on le sait, qui est toujours performante à domicile. On se rappelle dernièrement de son très bon match nul face à l'Atlético Madrid sur score de 2-2. Il y a cette défaite face à la Lazio de Rome 2-1, mais c'est une défaite suite à un but de Pedro à la 95e minute de jeu. Donc c'est une équipe du Celtic qui s'accroche sur son terrain. Donc je pense que les Écossais peuvent s'imposer, sachant que le Feyenoord est déjà qualifié pour l'Europa League. Cette équipe-là n'a plus rien à espérer sur cette rencontre. Cette formation reste aussi sur deux défaites en Ligue des Champions, donc devant la Lazio à Rome et à domicile devant l'Atlético Madrid. Donc avantage pour moi aux Écossais.
Bah, de mon côté, comme c'est un match sans enjeu, je préfère ne pas prendre de risque. J'aime bien le Celtic chez lui. Peut-être qu'il y aura une préférence sur le 1 sur mon triple. Mais je me méfie quand même des Néerlandais qui peuvent totaliser 9 points en cas de victoire, ce qui serait honorable pour une troisième place. Et pas de risque pour ma part sur ce match. Et donc, on va passer au match 10 avec des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk qui peuvent encore se qualifier. C'est assez extraordinaire qu'ils puissent se qualifier lors de la 6e journée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais Chris, tu fais confiance malgré tout aux Portugais.
Ouais, je fais confiance à l'expérience, hein, à l'expérience des Portugais, à l'expérience de ces grands rendez-vous. Je fais confiance à son duo d'attaquants Evan Nilsson-Taremi, même s'ils ne sont pas forcément trop performants depuis le début de la saison. Mais un garçon comme Evan Nilsson est capable encore une fois de perturber toutes les défenses. Donc je pense qu'il est capable de marquer sur ce match-là. Je me rappelle qu'au match aller, quand même, les Portugais avaient gagné quand même 3-1 devant le Shakhtar. Donc voilà, donc pour moi, un avantage du côté du FC Porto. Alors c'est vrai que je me rappelle au début de l'année, on avait dit que le Shakhtar était une formation qui avait tout changé avec beaucoup de départs et notamment ces Brésiliens. Et c'est une formation qui est toujours au rendez-vous. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi l'exploit face au FC Barcelone avec une victoire 1-0, c'était une victoire à Hambourg, mais à cette époque-là le Barça était en grande difficulté aussi, donc je mets un petit bémol sur cette victoire. Donc pour moi le FC Porto devrait pouvoir s'imposer, se qualifier. Ça serait quand même regrettable de ne pas les voir en 8e de finale de Ligue des Champions parce qu'ils ont quand même réussi deux belles prestations face aux Barcelonais. Il y a eu deux défaites, mais ils méritaient largement mieux du côté du Barça, donc pour moi avantage aux Portugais.
Alors, moi, j'étais très, très inquiet du côté pour justement pour les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk après le match aller perdu justement contre ces Portugais 3 buts à 1 sur terrain neutre, puisque depuis 2 ans, tu l'as dit, Chris, ils ont été pillés, ces Ukrainiens. Tous les Brésiliens sont partis à la cause du conflit russo-ukrainien. Et ensuite, la pépite Mudryk a été achetée par Chelsea au mercato de l'hiver dernier. Donc, une équipe qui est tout le temps pillée, mais qui arrive à renaître de ses cendres, tel un phénix. Et je trouve que les 2 victoires contre le Royal Antwerp et le FC Barcelone 1-0 les ont vraiment remis dans cette course à la qualification. Ils n'ont rien à perdre dans ce déplacement et je pense qu'ils peuvent réussir quelque chose. Le nul qualifierait quand même le FC Porto, mais je reste d'avis que les Ukrainiens peuvent faire un gros coup ici. Même à Barcelone, lors de la défaite, ils avaient failli égaliser en fin de match. C'est dire, c'est une équipe qui joue sans complexe et peut-être qu'elle est portée par d'autres choses que le football. C'est assez symbolique pour eux que de représenter leur pays dans cette compétition. Donc, ils vont être à 200%, normalement comme tous les joueurs, mais eux un peu plus que les autres. Allez, on passe au match 11, justement avec des Barcelonais qui se sont également inclinés contre Gérone ce week-end. Gérone, le leader de la Liga, qui se déplace chez la pire équipe de cette Champions League, puisque le Royal Antwerp n'a marqué aucun point dans cette compétition. C'est la seule équipe dans ce cas. Et c'est sûrement pour ça qu'on base les Blaugrana.
Oui, sûrement ça, hein. Tu l'as dit, 5 défaites en 5 journées pour le Royal Antwerp, c'est 15 buts encaissés, c'est une défaite à domicile devant le FC Porto, 4 buts à 1. Donc voilà, c'est une formation belge quand même qui est en grande difficulté. J'aurais pu peut-être aller chercher une victoire des Belges ou un match nul, mais si le Barça avait battu Gérone, je pense que le staff aurait fait tourner son effectif sur ce match-là. Là, c'est pas le cas, hein. On annonce les cadres dans le 11 de départ, hormis Frankie de Jong qui devrait rester en Catalogne, mais sinon tout le monde a été rappelé, hein, les Gundogan, Lewandowski qui devaient rester en Catalogne ont été rappelés pour ce match-là. Donc je me dis que le Barça aura à cœur de se rassurer, d'aller s'imposer en Belgique pour effacer cette terrible défaite à domicile devant Gérone. Donc pour moi, avantage aux Espagnols.
Oui, c'est un peu la même chose. Donc le Barça qui s'était imposé aussi 5 buts à 0 face à cette équipe d'Anvers. On peut aussi rajouter que les Belges sont la pire défense de toutes les équipes en Ligue des Champions avec 15 buts encaissés. Rien ne va dans leur sens et ça doit être une base barcelonaise. Raph serait là, il nous dirait que c'est peut-être un loto foot 13. Allez, on passe au match numéro 12 entre l'Atlético de Madrid et la Lazio de Rome. Et une première place du groupe sûrement en jeu sur ce match. D'où ton quitte ou double, Chris?
Ouais, c'est ça, qui tout double, même si sincèrement ma préf va largement du côté de l'Atlético, hein, qui compte déjà un point d'avance sur la Lazio, qui réussit un excellent début de saison, qui s'était imposé, on saura, enfin qui avait été accroché à Rome sur le score de 1-1 avec ce but exceptionnel du gardien de but de la Lazio, Ivan Provedel. Mais c'est une équipe de l'Atlético qui à domicile est extrêmement performante, c'est 10 victoires en 10 matchs. Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Donc, c'est vrai que ma préf est sur les Espagnols. Maintenant, je me dis que les Romains n'auront rien à perdre sur ce match, hein. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Romains vont tout lâcher pour peut-être aller chercher une victoire. Donc, voilà, si j'ai un petit 2 spéculatif à faire, c'est sur ce match-là.
Ouais, ça serait vraiment spéculatif. Moi, je le coche pas parce que vraiment, tu l'as dit, la forme des Colchoneros quand ils jouent au Metropolitano, c'est 10 victoires en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Et puis la Lazio, justement, en déplacement, ils sont méconnaissables, hormis le hold-up au Celtic Park, aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. C'est toujours des contre-performances. Donc, vraiment, gros avantage à la paire Griezmann-Morata et à l'Atlético tout court. Allez, match 13, donc le groupe du PSG et donc deux matchs du groupe du PSG qui vont suivre. Si vous avez bien suivi, il reste 2 triples à Chris, donc logiquement, il va les mettre sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, donc tu le mets déjà sur les Magpies qui reçoivent le Milan AC et sûrement sur le dernier match pour avoir le bon compte. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu vois un match assez illisible entre Newcastle et le Milan AC.
Ben, assez lisible tout simplement parce que ces deux équipes peuvent aller chercher encore une place en 8e de finale, hein. On rappelle, même si on pense que le Milan est déjà éliminé, le Milan n'est pas éliminé, hein. Le Milan peut se décrocher une place en 8e de finale si le Milan AC s'impose devant Newcastle et si le PSG s'incline à Dortmund. Donc tout est possible sur cette dernière journée. On va quand même rappeler que le Milan doit aussi gagner pour passer devant Newcastle et accrocher au moins une place en Europa League. Donc je pense que c'est une équipe du Milan qui va venir à St James' Park pour s'imposer. On se rappelle quand même ces dernières semaines que Newcastle est en difficulté, hein, c'est 7 buts encaissés là sur les deux dernières journées de Premier League, une défaite 3-0 à Goodison Park, une défaite 4-1 à Tottenham. Donc c'est une équipe qui est en grande difficulté. Alors c'est vrai qu'en Ligue des Champions, elle a réussi de temps en temps à se révolter avec cette belle victoire à Saint-Jean Park devant le PSG, mais il y a eu aussi une défaite à domicile devant Dortmund. Il y a énormément de blessés du côté de Newcastle, l'infirmerie est pleine. Il y a un garçon comme Nick Pope, le gardien de but de Newcastle, qui n'est pas là. Donc ça, c'est très inquiétant parce que c'est un garçon quand même qui sauve Newcastle depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Alors on va me dire du côté de Milan, il y a aussi l'infirmerie qui est pleine, mais on a un garçon qui revient de blessure, Rafael Leao, qui sera présent, donc qui peut apporter un petit peu ce dynamisme dans cette attaque milanaise. On a un gardien de but, Mac Maignan, qui est capable sur une rencontre de tout arrêter, et le Milan est capable d'aller s'imposer 1-0 à Newcastle. On a un Olivier Giroud qui peut sur un coup de pied arrêté placer une tête. Donc voilà, donc je ne prends pas de risque parce que je me dis que tout peut arriver sur ce match-là. Et Newcastle, grâce à son public, peut aussi emballer la rencontre et s'imposer assez facilement. Donc grosse prudence pour moi.
Ouais, c'est un match qui est pas forcément facile à analyser, mais je trouve que Newcastle est une équipe vraiment à deux visages. Un à l'extérieur où ils sont vraiment méconnaissables et un à St James Park où ils réussissent de grosses performances comme la belle victoire face au PSG et d'autres en première ligue. Donc, je les vois également rééditer une grosse performance à St James Park. Et les Milanais de leur côté, c'est sûr qu'ils vont tenter tout pour le tout avec un très mince espoir de qualification puisqu'il faut que le Borussia batte le PSG dans le même temps. Déjà, il faut qu'ils réussissent l'exploit de s'imposer dans ce déplacement, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire lors des deux derniers déplacements. Ils avaient été dominés à Dortmund malgré le 0-0 et ils étaient lourdement battus au Parc 3-0. Donc, je vois les Milanais, même s'il y a le retour de Rafael Leao probable, soit titu, mais plus probablement sur le banc, je vois les Milanais s'incliner, peut-être à l'image du match à Bergame où ils ont pris un coup de massue dans le temps additionnel et une défaite 3-2 en championnat. Donc, ils sont en plein doute et je pense que Newcastle va le faire. Alors, on espère que Newcastle sera juste qualifié en Europa League. Ça sera bon signe pour le PSG. On arrive donc au 14e et dernier match de la grille. Et donc, logiquement, un triple pour toi entre le choc, entre Dortmund et le Paris Saint-Germain.
Ouais, encore une fois, pas de risque, hein, parce que si j'avais peut-être une préférence, je la mettrais en plus du côté de Dortmund. Hein, donc vraiment, j'ai pas envie d'avoir préférence sur ce match-là, donc je préfère tripler. Dortmund, c'est une équipe, on le sait, qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui peut se contenter d'un match nul pour garder sa place de leader. Donc ça aussi, c'est un point important parce que Dortmund peut peut-être fermer le jeu en fin de rencontre pour peut-être garder un 0-0 ou un but partout. C'est une formation de Dortmund qui reste quand même en Ligue des Champions sur 3 succès d'affilée, hein, donc à St James Park devant Newcastle, à Giuseppe Meazza devant le Milan AC aussi. Donc on se rappelle quand même que le PSG a été inexistant à St James Park avec une défaite 4-1 et a été inexistant aussi sur la pelouse du Milan AC avec une défaite 2-0. Donc, je suis quand même inquiet du côté du Parisien. Maintenant, il y a deux motifs de satisfaction. C'est Kylian Mbappé qui est toujours performant, qui a marqué 15 buts, en 14 journées de Ligue 1. Et c'est surtout le retour de Warren Zaïre-Emery qui devrait, en tout cas, si on l'annonce titulaire demain, donc qui devrait apporter un peu plus de 109, un peu plus de percussion au milieu de terrain. Donc prudence, parce que voilà, je vous dis, je suis un petit peu inquiet pour le PSG, mais voilà, je me dis qu'avec ces joueurs-là et avec si le PSG est dans un bon jour, le PSG devrait aussi pouvoir s'imposer.
Oui, je te rejoins, c'est un match assez illisible où Zaïre Emery, à ma grande surprise, il est rentré contre Nantes en deuxième mi-temps alors qu'il était annoncé out jusqu'en janvier, donc ça peut être un point positif. Côté parisien, normalement, une belle expression, c'est que tous les feux sont au vert, hormis la suspension d'Ousmane Dembélé qui aurait pu faire son retour justement à Dortmund où il a évolué. Mais justement, puisque tous les feux sont au vert, c'est là que je me méfie encore plus. On se souvient par le passé de matchs où ils étaient carrément face à des équipes bis, voire terre, comme face à Manchester United, et ils ne s'étaient pas qualifiés alors qu'ils avaient toutes les cartes en main et tous les faits en leur faveur. Donc, par rapport à ça, grosse méfiance. Et puis, Dortmund, malgré tout, garde de bons joueurs en son sein. Il y a Füllkrug qui était la révélation d'il y a deux saisons, qui a réussi à percer dans cette équipe de Dortmund, qui marque à tous les matchs. Il a réussi à marquer face à Leipzig, malgré l'infériorité numérique durant le match. Dortmund s'est au final incliné, donc n'est pas au mieux en ce moment. Donc, c'est un match qui va être vraiment ouvert. Mais de mon côté, je place quand même la presse du côté du PSG. Footballistiquement, les Parisiens sont quand même un peu mieux, même si ça reste un déplacement. La défaite au Milan AC, c'était 2-1. Donc, Mbappé avait ouvert la marque. Et puis, il y avait eu le renversement par le Milan AC, mais hormis ça, il vaut mieux tripler. C'est une équipe qui ne réussit absolument pas le PSG dans cette Ligue des Champions. Si les mégagnants y perdent et vice-versa. Donc triple ici pour ne pas souffrir. C'était donc déjà le dernier match de la grille et on va passer au prono bookmaker. Et on vous rappelle qu'en même temps, si vous avez des pronostics à nous donner ou toute question à nous poser, que ce soit sur l'autofoot, les paris sportifs ou d'ordre général, n'hésitez pas à le faire sur le chat. On y répondra juste après nos pronos book. Et à toi l'honneur, Chris.
Alors on va commencer donc par un match de ce mardi à 18h45, PSV Arsenal. Match sans enjeu, mais le PSV va être poussé par tout un peuple. Dans les rangs des Néerlandais, le buteur c'est Luc De Jong. On le connaît très bien, un garçon qui a fait mal à cette équipe lensoise. C'est 10 buts en championnat, c'est 7 buts en Ligue des Champions avec les tours préliminaires. C'est un garçon qui à domicile en Ligue des Champions a toujours marqué. C'est un doublé devant Stongaz, un but devant les Rangers, un but devant le FC Séville et un but, on s'en rappelle, face au RC Lens. Donc je pense que le grand attaquant peut marquer face aux Gunners. Sa cote, elle est à 2,65. Du côté mercredi, du côté de Manchester City, je vois un but de Grealish. Hein, ce garçon doit marquer des points pour essayer de regagner sa place de titulaire. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, Doku, Grealish, s'il y avait à choisir, on irait largement du côté de Doku, qui réalise un début de saison assez exceptionnel. Mais Doku est annoncé blessé pour cette rencontre-là. Donc Grealish devrait pouvoir titulariser. Il a été titulaire face à Luton, il a marqué, donc ça c'est un point important. Erling Haaland sera absent sur ce match, donc on va compter sur Grealish, on va compter sur Alvarez. Donc je me dis que la cote de Grealish à 3,35, c'est plutôt voilà, une belle value.
Si je peux me permettre, Chris, ce qui est assez étonnant, là il faut des explications des bookmakers, c'était déjà le cas à Luton. Mais malgré l'absence de Haaland, les autres buteurs ne baissent pas forcément
Ouais,
énormément en
c'est
cote et
ça.
restent à des cotes assez hallucinantes. Donc je ne sais pas comment c'est basé exactement, mais forcément s'il y a des buts, ça ne sera pas Haaland. Donc c'est une belle value, effectivement. Je te suivrai sûrement sur le coup.
Et ensuite, on a mercredi à 21h, Porto Shakhtar. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vois une victoire des Portugais. Il y a un garçon qui brille hein, sur ce début de saison en Ligue des Champions. Alors, Evan Nilsson, c'est le meilleur buteur du FC Porto en championnat avec 4 réalisations, mais c'est aussi le meilleur buteur du FC Porto en Ligue des Champions avec 4 buts. Et sa cote, elle est à 2,35. Et enfin, pour le fun, je me tourne vers le Royal Antwerp face à Barcelone. Donc je ne vais pas miser sur un buteur simple parce que les cotes sont assez basses, mais sur un combiné, je me dis que le Barça, si le Barça joue le jeu et si le Barça veut se rassurer, je pense que le Barça peut s'imposer assez facilement en Belgique. Ils l'ont fait au match aller avec une victoire 5-0. Donc là, le combiné João Félix, qui a quand même inscrit 2 buts là, sur ses 3 derniers matchs, combiné avec Lamine Yamal, un jeune qui devrait être titulaire sur ce match-là, qui était remplaçant face à Gérone, la cote elle est à 7,25, donc je pense que c'est plutôt pas mal.
Bien. Bah de mon côté, je vous ai préparé encore quelques buteurs malgré le manque de réussite depuis plus d'un mois maintenant. Donc, j'opte pour Eli Wahi en espérant ne pas lui porter la poisse. Buteur ce soir, donc c'est 18h45, le match de Lens à 2,70. Pourquoi? Parce qu'il a déjà inscrit 2 buts en Ligue des Champions cette saison et les 2 buts ont été marqués devant son public à Bollaert. On se souvient de l'exceptionnel but contre Arsenal, également le but égalisateur contre le PSV. Donc, Eli Wahi buteur ce soir avec les 100 et 1. Et un autre buteur que j'affectionne pas mal, où on est sûr, ben normalement on n'est jamais sûr, mais il sera titulaire à 100% contrairement au Osimhen, c'est le Géorgien Kvaratskhelia qui est coté à 2,85 pour un but devant Braga. Pourquoi? Parce que Kvaratskhelia, depuis un mois, va beaucoup mieux. Il a non seulement marqué des buts avec la Géorgie, mais il a également été l'un des 2 buteurs lors de la victoire à Bergame de son équipe. C'était les 2 derniers buts de Naples à Bergame. Et j'espère qu'ils vont renouer avec le chemin défilé ce soir contre Braga. Et enfin, un pari 1 et 2 et les 2 équipes qui marquent où j'opte pour une victoire de Newcastle et donc les 2 qui marquent face au Milan AC. Je vois un peu un match où les 2 équipes vont tout donner puisqu'elles sont toutes les 2 dans l'obligation de s'imposer. Et avantage, comme dans mon autofoot, aux Magpies qui devraient s'imposer chez eux. Mais avec les nombreux atouts offensifs des Milanais, dont Giroud qui marque vraiment quasiment à chaque fois, je pense que les Milanais sauveront l'honneur. Et donc, ça fait une cote à 3,25. Et enfin, pour le fun, un buteur que j'ai pas mal joué il y a 2, 3 ou 4 ans. C'est Luka Modric, donc le Croate de cette équipe du Real qui devrait être titulaire demain dans cette équipe du Real. Et je ne sais pas s'il va tirer les pénaltys, mais c'est possible. En tout cas, c'est une possibilité. Je trouve qu'une cote à 6 face à une défense assez poreuse de l'Union de Berlin, ça se tente. En fun, bien évidemment. Allez, on va passer maintenant à vos questions via le chat. Seb nous a fait une petite synthèse et Chris te laisse lire la première question.
Ouais, alors deux phrases plutôt rigolotes. La première, c'est Sébastien, donc c'est peut-être Seb de la technique, je ne sais pas. Chris sans barbe, c'est du 13 sur 14, donc oui, j'ai tout rasé pour espérer conjurer le mauvais sort et repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on a.
Il y en a qui t'ont un peu chambré, parce que c'est l'approche de Noël, t'aurais pu jouer au Père Noël, mais bon, hein, c'est comme ça. Hein.
Ensuite, on a Koukoum 80. Question pour nous, quand on entend les ambulances pendant l'émission, est-ce que c'est pour les joueurs de Lyon quand ils vont voir les psychologues?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas eu d'ambulance aujourd'hui. C'est bon signe pour les joueurs lyonnais.
Ensuite, on a Aurélien. Salut la team. Dans une sixième journée où certains ne jouent plus rien, est-ce qu'il y a des overs ou des handicaps à jouer ce soir et demain en Champions League? Merci.
Il y a toujours des overs et des handicaps proposés par les bookmakers. Après, c'est comme tout, il faut faire sa propre analyse. Tout est intégré par les bookmakers, donc le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, qu'il y en ait. Là, on peut même voir que le PSV a la même cote qu'Arsenal parce qu'ils ont bien vu les compos, les bookmakers. Ils sont pas bêtes, ils voient que ça équilibre les forces. Donc, il faut essayer de dénicher des values. C'est vraiment pas évident. Les bookmakers sont très bien informés. Alors après, si tu nous demandes nos handicaps ou nos overs, j'en avais repéré deux, trois. Il faut que je regarde ma liste, mais je vois des matchs à but. Mais je les ai plus en tête, il faut que je regarde, je te dirai ça à la fin de l'émission.
Ensuite, Raphaël, nous, crois-tu au réveil de Lyon?
Bah, c'est pas que j'y crois ou j'y crois pas. En tout cas, Lyon s'est déjà réveillé de très très belle manière à domicile contre Toulouse, je l'ai dit dans le débrief, puisqu'il y a eu la manière en plus des trois points de la victoire. Il y a deux matchs qui sont très compliqués à jouer, le déplacement au Louis II. Bon, une défaite avec les honneurs, ça serait pas trop grave. Et après, surtout, il y a la réception des Canaries nantais. Et si Nantes joue comme il a joué au Parc des Princes et comme il a joué contre Nice, ça va être quand même très compliqué malgré tout. C'est-à-dire que même un Lyon qui n'est pas malade aurait du mal face aux deux prochains adversaires. Donc, difficile de savoir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des espoirs de maintien, et ce à quoi je ne croyais pas du tout il y a encore deux semaines.
Ensuite, Jokol, salut les gars. Nous, est-ce qu'il t'arrive de couvrir des LF en soirée avec des bets? Si oui, comment? Merci.
Oui, alors c'est assez rare que ça m'arrive de couvrir des LF parce que déjà, il faut être en course pour le dernier match. Alors, ça m'est arrivé sur un loto foot 8 où j'ai pris gros justement, où j'avais mis l'affiche que j'ai enlevée, c'était 18 000 euros au loto foot 8. J'avais un match portugais pour terminer. J'avais que le double 1N et à 15 minutes de la fin environ, j'ai dû placer 200 euros sur la victoire à l'extérieur que je n'avais pas pour récupérer 1005 de mémoire au cas où ça se passerait mal. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Mais oui, ça m'arrive sur les 7 et les 8 quand j'ai un double à la fin. Mais la couverture, c'est assez rare. Et au 14, c'est très, très compliqué, surtout depuis la nouvelle programmation, depuis 2 ans où tous les matchs ont lieu le dimanche. Avant, il y avait un seul match le dimanche soir. Maintenant, il y en a 2 ou 3. Donc, les couvertures sont compliquées à réaliser.
Ensuite, Demba, nous, penses-tu que le Pactol va trouver preneur?
Alors, le Pactol d'aujourd'hui, je n'ai même pas relevé l'indice de difficulté.
Si c'est quelque, je crois.
Oui, si c'est quelque. Ouais. Bah, il devrait, mais il ne faut pas que des City ou des favoris, même le Barça, fassent des nuls. Mais il me semble qu'il va trouver preneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, gagnant, c'est beaucoup plus dur qu'il y a quelques temps. Même des grilles très compliquées trouvent un ou deux gagnants. On l'a vu le Super Pactol, j'avais annoncé pas de gagnant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'annulation du match de Bilbao, mais malgré tout, il y en aurait eu dans les 3-4 figures. Je vois quelques gagnants, je vois en 10 et 20 gagnants. Je ne vois pas la grille explosive ce soir. Évidemment, c'est qu'une estimation de ma part, mais je vois une grille compliquée, mais pas trop.
Après, si les Cadors jouent le jeu, la grille, il n'y aura pas de surprise, quoi, clairement.
Oui, il n'y aura pas de surprise. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de matchs équilibrés qui font qu'on garantit une certaine difficulté, comme Dortmund-PSG, Newcastle-Milan AC et quelques autres qui méritent le triple. Donc, il suffit d'une ou deux demi-surprises pour qu'il n'y ait que 20 gagnants ou 10 gagnants sur cette grille. Donc, 50 000 à 100 000 euros de rapport.
Ensuite, GLG. Bonjour messieurs. Nous, vous avez fini à combien ce week-end en LF Group avec Baggio?
Ouais, alors avec Baggio, je vais un peu raconter la chose. C'est en groupe, en général, on joue en garantie N ou en N partielle. Et là, vu la grille, d'ailleurs, je l'avais annoncé qu'elle était très compliquée, on est parti sur une N-2. Je dis bien une N-2 qu'on a renforcée avec le Barça. Et c'est assez incroyable. La N-2 avait bien fait les choses. Il nous restait Marseille, Barcelone et l'AS Roma. Et malheureusement, donc on jouait le 15 à 22h encore dimanche soir, mais ça s'est mal goupillé. Donc on a fini à 13 sur 15 avec une très très grosse couverture grâce à la N-2. Et on partait pour ne pas perdre de rang si le Barça s'impose.
Joe Cole, j'ai pris l'Inter, gagne la Ligue des Champions à 26. Je suis étonné de la cote qui ne baisse pas alors qu'ils enchaînent bien avec leur duo d'attaque, une défense solide et une continuité avec leur coach. Tu as une explication, nous?
Non, pas du tout. Je me suis fait la même réflexion puisque j'ai consulté les cotes de vainqueur Ligue des Champions il y a 2 ou 3 semaines et j'avais vu à 26 et je me suis dit, ça me semble bien value, c'est assez bizarre. Voilà, faut battre des grosses cylindrées, mais c'est déjà, ils sont pas sûrs de finir premier du groupe. C'est la seule petite explication que j'aurais. Donc justement, si Chris, tu as bon dans ton triple et si le N2 sort, ils vont peut-être décrocher du lourd en huitième comme du City ou du Bayern, mais c'est quand même les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Ils avaient tenu tête à Manchester City et je trouve qu'ils ont un 11 exceptionnel.
Ensuite, Elage, salut la team, un prono pour Copenhague Galatasaray.
Ouais, c'est heureusement qu'il n'est pas sur la grille, celui-là. Je ne sais pas, Chris, si tu étais inspiré, mais comme ça, moi j'aurais dit d'instinct 1-2 parce qu'il faut une victoire pour aller
Ouais, c'est ça.
en huitième.
Ouais, c'est ça exactement. Il faut une victoire pour en huitième et avec Copenhague va tout lâcher. Hein. On l'a vu, les matchs à domicile de Copenhague, c'est une équipe qui attaque énormément, qui joue le jeu, donc ça peut faire mal dans les deux sens. Et en plus, Galatasaray est un très très beau secteur offensif. Hein. Même si on peut penser qu'Icardi est à la retraite à Galatasaray, et il est performant depuis le début de la
Ah oui.
saison. Il y a Ziyech aussi qui fait un bon début de saison. Il y a Bakambu, il y a Mertens aussi qui est, même s'il est assez âgé. Franchement, il y a une belle équipe du côté des Turcs, hein. C'est pas mal.
Moi, c'est 1-2, préf 1 tout de même, parce que Copenhague a montré d'excellentes choses à domicile.
Ensuite, François, bonjour messieurs, vos pronos sur les clubs français engagés dans les autres coupes d'Europe.
Alors, si c'est l'Europa League, Conference League, personnellement, j'ai pas encore analysé, mais il y en a certains qui sont déjà qualifiés, donc ce qui est mon signe.
Ouais,
Chris?
après il y a Lille qui reçoit Glasvik, donc voilà, je pense que les Lillois,
Oui, pour la première place.
ça devrait être une formalité quand même pour les Lillois qui sont quand même en confiance. Et après, il y a deux matchs compliqués, hein. Toulouse qui va en Autriche à Linz, même s'ils sont derniers de la poule, je pense que Toulouse n'aura pas la partie facile là-bas. Et puis on a le Brighton-Marseille qui risque d'être assez explosif, sachant que Brighton doit gagner pour prendre la première place. Donc ça sera pas un match facile pour les Marseillais.
Très bien.
Ensuite, on a Alexis. Bonjour. Qui sur le site met des pronostics dans les tickets Pronosoft? Merci.
Alors, on est plusieurs dans l'équipe, mais on se concerte en général le matin pour essayer d'avoir un consensus sur les pronos. Je fais partie de ceux qui sélectionnent les pronos du ticket Pronosoft, pas toujours avec réussite. Alors, c'est assez compliqué, bah, comme tous les pronos, mais là, on est obligé de mettre un prono, même le lundi, où il n'y a pas grand-chose. Alors, hier, on a passé, grâce à un membre de l'équipe qui était très chaud sur les nuls du lundi soir. Et hier, donc, on l'a passé, mais ce n'est pas toujours le cas. On avait la Roma dimanche de mémoire. Donc, on essaie de mettre le meilleur prono en se concertant. Donc, c'est un des rares pronos où on cherche un petit consensus pour avoir des meilleurs
Et
résultats.
puis un prono avec une cote qui se rapproche des deux ou qui passe les deux, donc c'est pas évident.
C'est ça, exactement. C'est assez rare qu'on soit en dessous de 2. Alors, quand c'est un nul mi-temps, c'est entre 1,80 et 2,10. Mais sinon, on essaye de taper entre 2 et 2,50. Un peu comme ce qu'on fait dans les pronobooks ici. On garde la philosophie qu'on a sur le site et sur Pronosoft. D'ailleurs, pour moi, la seule stratégie gagnante dans les paris, c'est de tenter des cotes assez élevées, de ne pas faire du 1,10 ou du 1,20. Parce que déjà, il n'y a pas de pronostic dans du 1,10 et du 1,20. Et les surprises arrivent toujours là où on ne les attend pas. Donc, autant prendre une grosse cote. Si on en loupe une, il ne faut pas 10 pronos pour la rattraper, mais juste un ou deux de bons.
Ensuite, Arnaud, salut la team. Vous pensez que la grille à 7 de ce soir va être explosive ou plutôt logique? Et nous, tu filtres ta grille avec l'estimateur sur le 14?
Alors, le 7, j'ai pas vu si c'était ça doit être les mêmes 7 premiers matchs. Hein. Du coup, là, j'ai vraiment pas regardé qu'est-ce que ça allait donner sur le 7 par rapport aux surprises. Mais sinon, oui, le 14, je file quasiment tout le
Ouais, c'est
temps
les 7
avec
premiers matchs, hein,
un.
le 7.
Ouais, c'est les 7 premiers matchs. Donc, je sais même plus le haut de ma grille, mais j'ai plutôt couvert en bas qu'en haut de mémoire. Donc, je vois plutôt assez logique en haut. Sinon, oui, je file très, très, très souvent le 14 avec un minimum et uniquement un minimum, sauf justement souvent les grilles de Ligue des Champions ou les grilles internationales où il y a un fort risque de logique parce qu'il y a plus de différence de niveau. Mais les grilles du week-end, du dimanche, j'ai toujours le filtre estimateur. Parfois, je ne le pousse pas très fort, mais j'essaie d'enlever 10% de grilles par le bas qui sont les grilles qui ne m'intéressent pas dans mon jeu.
Ensuite, à Arnaud, encore une fois, des buteurs mi-temps.
Bon, on va espérer que nos buteurs passent en
à la mi-temps.
Et oui, c'est ça, que nos buteurs proposés vont passer à Chris et à moi. Et pour ne pas souffrir qu'ils passent en première mi-temps, mais ça peut être une bonne stratégie. D'ailleurs, on va peut-être en reparler plus tard, mais il y a un article sur le site qu'on a publié il y a une semaine, qu'on a réalisé avec l'équipe sur les buteurs et qui montre les avantages du pari mi-temps et de toutes les variantes des paris buteurs. Donc, je vous invite à aller sur la page d'accueil de Pronosoft, il y a la diapo qui permet d'aller sur l'article qui parle des avantages des paris mi-temps.
Voilà. Ensuite, Prosper, pourquoi la FDJ a mis si longtemps à donner les résultats du LF15 de dimanche dernier, le stress pour les gagnants?
Alors, moi, je ne sais pas pourquoi exactement, mais on a quand même un fort doute avec ce match de Granada-Bilbao qui a été arrêté dans l'optique de le reprendre. Alors, ils auraient pu le faire, c'est vrai, à 23h. C'était sûr que le match n'allait pas reprendre le jour même. Mais je pense que c'est une grosse opération de mettre un match gagnant. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes en accord qui appuient sur le bon bouton. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère puisque le match s'est bien rejoué lundi soir. Donc, ils ont pris, je pense, toutes les précautions pour s'informer et valider de toutes parts, pour ne pas faire de boulettes. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps d'après moi.
Arnaud, pas de Giroud buteur, nous?
Non, pas de Giroud buteur, mais c'est vrai que c'est un serial buteur. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis buteur? Parce qu'en général, je prends le buteur dans l'équipe que je vois s'imposer. Là, j'ai bien mis que j'ai un pari book où les deux équipes doivent marquer. Donc, logiquement, je vois aussi le Milan assez s'imposer. Mais si jamais il y a 2-0 ou 1-0 pardon, à la 90e minute, je vais pousser pour mon loto-foot où il y aura la base et je ne vais pas espérer le but de Giroud. Donc, j'essaie de garder une certaine cohérence dans l'ensemble de mes pronos.
Ensuite, Zach, l'édition manuelle des grilles bientôt disponible sur l'application.
Alors, bientôt, ça dépend ce que tu entends par bientôt, mais non, c'est pas bientôt parce qu'il y a vraiment de gros chantiers en ce moment. En fait, c'est quelque chose de classique en informatique. Au début, ça peut aller très vite quand on a peu de fonctionnalité dans une appli ou un site. Mais plus la machine est grosse, plus ça met du temps, plus il y a de la maintenance. Donc, c'est dans la vision, c'est sur la feuille de route, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est dans plus d'un an, mais ça sera fait puisque moi-même, ça m'handicape quand je veux le faire et rajouter des doubles ou des triples fixes. Je me retrouve parfois à ne pas pouvoir utiliser le logiciel et je fais des choses en déplacement et je n'ai pas cette possibilité et ça me fait 40 ou 50 flashcodes contre 10 ou 15. Donc, je suis le premier à attendre cette fonctionnalité, mais malheureusement, on fait avec les puissances de travail qu'on a dans nos rangs.
Vincent, trouvez-vous normal les difficultés pour récupérer son argent sur Paris en sport par rapport à Betclic?
Alors, je ne sais pas de quelles difficultés tu parles ou de quel délai, mais voilà, faut en dire un peu plus. Et si, voilà, faut en dire un peu plus.
Ensuite, on a Prosper. Quel risque pour le club turc dont l'entraîneur a frappé l'arbitre du match? Connaissez-vous des précédents à cela? C'est grave.
Ah ouais, c'est super grave. Je crois que là, il a été arrêté par la police, le dirigeant. Donc, ça peut aller jusqu'au pénal. Mais pour moi, faut frapper un grand coup, pardon. Pour moi, c'est un club qui ne doit pas continuer en première ligue ni en deuxième ligue turque. C'est une sanction qui doit être exemplaire parce qu'il y a non seulement le dirigeant, mais j'ai vu l'arbitre être roué de coups au sol et en direction de la tête. Donc, c'est hyper grave. C'est un vrai lynchage. Ça aurait pu vraiment dégénérer d'après moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont fait ça.
Ensuite, Raphaël, nous, sur l'estime des rapports, tu vois quoi? Car elle paraît plus simple que dimanche.
Oui, c'est sûr qu'elle paraît plus simple. Déjà, il y a un match de moins et le Barça semble quand même être la grosse base parce que s'il ne s'impose pas là-bas, ce serait une crise très profonde. Concernant les rapports, j'ai parlé de 50 à 100 000 euros. J'espère qu'on arrivera à minimum 50 000. Alors, quand je vois minimum 50 000, je ne mets pas le filtre estimateur à minimum 50 000 puisque si elle fait 20 000 ou 15 000, je ne veux pas rater le pactole pour cela. Mais juste de placer le minimum à 10 000 de mon côté, ce qui correspond à 5 000 s'il n'y avait pas eu 1 000.
Ensuite, attendez, j'ai perdu le fil. Quinoa, Est-ce que les gagnants se déclarent toujours auprès de vous?
Alors non, déjà, il n'y a aucune obligation de se déclarer, même au niveau de la FDJ, il y a l'anonymat qui peut être garanti. Alors peut-être pour les euros-millions et les sommes extraordinaires, ils ont le droit de contacter le gagnant, mais tout ce qui est en dessous de 500 000, ça peut rester complètement anonyme. Alors les gagnants qui utilisent nos outils, certains nous envoient leur ticket. D'ailleurs, on les remercie pour cela. Hein. Vous pouvez envoyer les tickets soit par la rubrique Top Ticket, soit via le contact ou via le site toujours Top Ticket. On remercie tous ceux qui nous partagent leurs gains, mais tout le monde ne nous envoie pas les jeux. C'est toujours très intéressant d'étudier le pronostic et je suis très curieux de voir comment justement les quatre gagnants du week-end ont trouvé le super pactole, sur quelle base ils sont partis. Et s'il y a eu une réduction qui n'a pas perdu de rang ou pas.
Ensuite, Chef Brix, est-ce qu'il y a eu déjà quelqu'un, un gagnant, un système en N-1?
Alors, c'est pas est-ce qu'il y a eu quelqu'un. Alors, en N-1, il y a des centaines, voire des milliers de gagnants, même sur des pactoles, des centaines qui ont gagné des pactoles en N-1 depuis le temps. Hein, le loto-foot existe depuis maintenant 20 ans. Tout comme le logiciel, donc il y a de quoi faire en 20 ans. Après, je parlerai plus de N-2, de N-3. Il fut un temps sur le forum, on avait beaucoup de N-3 qui tapaient des 14 sans aucune perte de rang, c'est toujours possible. Voilà, donc il y a des gagnants avec tous les styles de jeu. Moi, j'aime bien utiliser la N-1 qui laisse quand même une chance sur 8 ou sur 9 de ne pas perdre de rang. Donc, on rajoute quelques croix, mais on ne s'en remet pas à une chance inouïe. Et une chance inouïe comme à l'euro million ou au loto, ça reste une chance sur 8 ou sur 9. Et avec un bon filtrage, on peut passer à une chance sur 6 ou sur 5, puisque plus on filtre les grilles, moins la réduction est bonne. Mais ça veut dire que plus on a de chance d'avoir le 14 sur 14.
Ensuite, Arnaud, nous, tu conseilles combien de mises en N-2?
Alors là, je refais toujours la même réponse. Déjà, je ne conseille aucune mise, puisque la mise va dépendre de chaque joueur, de ce qu'il peut mettre dans le jeu, sachant que ce sont des mises qui sont normalement perdues. Alors, je n'ai pas fait le message de rappel de prévention que Raph fait toujours, mais évidemment, faut faire attention avec les paris. Donc, évidemment, faut miser ce que tu peux perdre. Et à partir de là, si tu décides de jouer en N-2, bah, ça peut être une bonne stratégie. On l'a fait avec un gros budget. Donc, quand je dis gros budget, c'est 3000 euros en groupe ce week-end. Alors, c'était une N-2 renforcée. Donc, la grille faisait 2200 ou 2300 euros. En renforçant le Barça, on est passé à 3000 et des poussières. Mais c'était quand même une N-2 à la base parce qu'on voyait vraiment 7-8 matchs complètement illisibles. Donc, je dirais plus que je conseille d'adapter la garantie par rapport au style de grille qu'on voit. Et après, évidemment, le budget, c'est le deuxième paramètre pour choisir quelle garantie.
Ensuite, Fado From. Alors, il y a deux questions. Alors, je vais d'abord répondre à la première qui me concerne. Chris, as-tu déjà disputé des matchs en national et comment était le niveau? Donc, oui, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Au total, j'ai 315, je crois, à peu près matchs en National 1. Et le niveau était bien plus faible qu'aujourd'hui, hein, je l'avoue. Hein, aujourd'hui, moi, c'était au début des années 2000. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de suivi au niveau des joueurs, au niveau notamment musculation, récupération, hygiène, etc. Enfin, diététique. Donc, c'est un niveau quand même qui s'est largement élevé. En plus, beaucoup de joueurs qui sont stagiaires pro maintenant vont jouer en national et donc ces joueurs-là élèvent le niveau et on le voit notamment en Coupe de France avec quand même pas mal d'exploits, pas mal d'équipes de national qui s'imposent face à des Ligue 1 ou des Ligue 2. Donc ouais, le niveau était largement plus faible qu'aujourd'hui. Et ensuite, on a une question pour nous. Qui fait les pronos spéculatifs sur le site Pronosoft?
Alors, le pronospécu, c'est des membres de l'équipe. C'est surtout Horace que vous aviez vu au tout début des Spaces sur Twitter. Mais parfois, il y a des remplacements et on tourne. Ça m'arrive d'en faire quelques-uns, mais c'est très, très rare. C'est pour vraiment supplier quelques absences. Mais c'est des membres de l'équipe qui les font avec la volonté de mettre quand même quelques surprises.
Raphaël, sur le site, on voit le prono de Baggio. À quand celui de Chris et de nous?
Je dirais que tu le vois dans l'émission Prono Live. Après, ça demande quand même du temps. Donc, si on le mettait comme le Prono Spécu et Baggio, il faudrait le faire sur toutes les grilles pour être cohérent. Après, ce n'est pas interdit que dans les mises en page, on intègre nos pronos de Prono Live pour qu'ils soient visibles sur les grilles sur lesquelles il y a des émissions Prono Live. Ce n'est pas interdit à faire. D'ailleurs, on compte même intégrer des vignettes YouTube de nos émissions directement sur les pages qui présentent les pronos d'autofoot des grilles en question. On a des chantiers en cours pour optimiser un peu la présentation et plus mettre nos pronos, pronos live, enfin nos émissions en avant.
Ensuite, on a Black Jackson. Quelle est la cote la plus haute que vous ayez pris en paris multiples? Merci.
Voilà, j'ai pas noté de mon côté la cote de mémoire, mais peut-être c'était dans les 250 sur de l'Europa League, qu'on me rappelle toujours avec handicap, j'avais mis 50€ avec une cote à 250. Voilà, ça doit être ces eaux-là. Et je rêve de passer une cote à 1000 comme beaucoup. J'entends pas souvent, mais j'entends un peu plus depuis un ou deux ans et c'est vraiment très compliqué.
Ensuite, on a Mister Lefty. Un bouton pour effacer la grille test sur l'onglet test, ce serait bien aussi.
Alors, juste précise-nous dans quelle application, parce qu'on a tellement d'endroits où on peut tester, si c'est l'appli PFRN2, si c'est sur le site PronoSoft, si c'est dans l'appli PronoSoft, si c'est dans le logiciel PronoFoot Expert Plus. Là, je ne vois pas parce qu'on peut quasiment effacer dans tous ces outils. Alors, peut-être qu'il y a une omission, mais merci de nous dire exactement où et on le rajoutera si c'est juste un bouton pour effacer.
Fade From, nous, te souviens-tu d'un loto foot 14 avec un seul gagnant à 14 et aucun à 13?
Oui, tout à fait. C'est arrivé une fois à notre grande surprise, donc ça devait être une réduction. Soit c'est une grille simple, ce qui est toujours possible qui a fait 14, mais je pense plutôt à un système réduit N-1, N-2 qui n'a pas perdu de rang. Et donc les N-1 et surtout les N-2, N-3, quand elles ne perdent pas de rang, il n'y a pas de grille au rang inférieur puisque c'est couvert forcément par la grille au premier rang. Puisque le système des réductions, c'est de ne pas prendre les grilles qui sont juste à côté avec une erreur. Donc forcément, si vous avez un 14, vous n'avez pas de 13.
Ensuite, François, c'est normalement la dernière question. Quand vous mettez les bons pronos à 15, 14, 13, pourquoi ne pas mettre ceux dans la course au rang 1?
Les bons pronos… Alors, je j'ai pas compris, parce que justement… Justement, dans tout ce qui est test de grille, on met un classement des grilles en course. Donc, si jamais tu peux préciser, et peut-être Seb recopie les réponses. Et entre-temps, donc j'avais fait une petite sélection over pour répondre. J'avais promis de répondre, donc je vais le faire. Je vais tenter des over 3-5 sur PSV Eindhoven Arsenal, puisque c'est un match sans enjeu, ça devrait jouer assez librement. Je tente également, donc j'avais oublié, sur Copenhague Galatasaray, dès que ça va ouvrir la marque, ça va être un peu fou d'un côté et de l'autre. Et puis, c'est deux équipes qui marquent beaucoup. Et puis, l'Union Berlin contre le Real Madrid, j'ai aussi tenté un over 3-5. Même s'il y a eu 1-0 au match aller, on n'est pas du tout dans le même contexte ici. Il y a du turnover côté Real. Et donc, il va y avoir des buts encaissés, mais également potentiellement des buts marqués.
Et on a une dernière question, c'est Quinoa. Est-ce possible de régler l'appli en mode paysage? C'est pénible avec l'iPad debout.
Alors, c'est de l'appli PronoSoft que tu parles, parce que PronoFoot 1 et 2 peut tourner. Après, l'appli PronoSoft ne peut pas être tournée, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas optimisé en fait la mise en page pour le paysage. Surtout sur tablette, l'intérêt d'avoir du paysage, c'est normalement de rajouter des infos, de faire une double vue. Donc là, ça serait un énorme zoom uniquement. Ça sera assez illisible, je trouve, d'être en mode paysage avec l'appli. Pas illisible, mais beaucoup trop gros. Et les flashcodes afficherés seraient aussi énormes. Mais pourquoi pas?
On a encore une question. Arnaud, les lotos 8 commencent à bien payer. Ça vaut le coup de bien les étudier, tu penses? 4 triples et 4 doubles en N-1, ça vaut le coup de le jouer?
Ouais, à qui le dis-tu, hein? Oui, tout à fait. Justement, j'étais personnellement très surpris depuis la sortie du 8. Qu'on n'ait pas eu des 8 qui payent autant, parce que c'est pas que j'avais vu tout de suite le truc, mais le potentiel est énorme des Lotofoot 8. Les 42 000 € qu'on a eu la semaine dernière vont dans ce sens-là. Il y a eu aussi une grille où il y a eu 60 000 € de mémoire, je ne sais plus le record, mais il y a eu deux grilles depuis cette rentrée qui ont payé énormément et ça confirme le potentiel de ce jeu. Donc oui, au 8, on peut jouer en N-1 ou N-1 renforcé. Donc là, tu parles de 4 triples, 4 doubles pour n'avoir aucune base. Ça peut être une bonne stratégie pour l'Lotofoot 8, mais pas pour l'Lotofoot 7. Pardon.
Encore une question. Black Jackson, pour ton rêve, nous, je peux peut-être t'aider. J'ai raté le ticket où la cote à 1000 allait passer. Je suis aussi dans ce challenge-là. As-tu un conseil pour optimiser les paris?
On est tous, je crois, dans le challenge de passer la cote à 1000. Souvent, il y a toujours le match de trop, mais en fait, c'est normal parce qu'en probabilité, quand vous prenez 7, 8 ou 10 matchs, qu'il y en ait juste un de faux est très probable, contrairement à ce qu'on peut penser. On pense souvent qu'on est malchanceux, mais c'est comme au autofoot. C'est beaucoup plus probable de finir à 13 qu'à 14, puisque quand on finit à 13, on peut se planter sur n'importe quel des 14 matchs. Donc, il y a 14 possibilités de se planter. Et quand on doit faire le perfect, bah, il n'y en a plus que zéro. Alors, c'est très dur. J'ai vu passer un ticket dans la rubrique top ticket où la personne ne s'est pas cassé la tête, mais a quand même évité tous les matchs pièges. Donc, que des cotes de 1,20 à 1,70 pour une superbe cote. Toutes les stratégies sont bonnes. Moi, j'essaie de limiter le nombre de matchs, mais ce n'est pas pour ça que j'y arrive pour autant. Donc, je continue de tenter avec des mises quand même de 20 à 30, 40 euros pour taper un gros coup. Mais ça fait mal parce que j'en ai pas passé un seul.
Encore une question, Zach Mailly, pourrait-on avoir la liste des matchs à venir en complément des matchs passés, pour les matchs en jeu notamment?
Alors là, je pense que c'est par rapport au calendrier des matchs. Des fois, Chris t'en parle, non? Des matchs qui vont arriver.
Ouais.
Genre, l'équipe joue ce week-end un gros choc en Angleterre, donc elle va faire tourner. Je ne sais pas si c'est ça dont il parle. Donc normalement, quand. Ah oui, d'accord, oui. Oui, donc merci Seb qui me parle dans l'oreillette. Donc c'est dans l'application d'avoir accès justement à ce calendrier dans l'application Pronosoft. Oui, c'est possible que ça arrive.
Bah,
Bon,
normalement, c'est fini.
il y a un truc qui est en train de s'écrire, c'était peut-être
Ouais.
ça Seb? Ou c'est bon? Bon, je pense que si on discute encore plus longtemps, il y aura encore des questions, mais c'est peut-être l'heure de mettre un terme à cette émission, surtout qu'il n'y a plus que 4h30 pour faire vos pronos et les valider. Et même nous, dans l'équipe, on n'a pas encore finalisé nos pronos. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission d'un peu plus d'une heure. On vous souhaite à tous de très, très bons pronos. On va vous retrouver dès ce vendredi avec encore un pactole de 500 000 euros. Et on va vous souhaiter de très bons matchs de Ligue des Champions et allez les clubs français. Bon pronos.
Bon match, bon pronostic.